Bon, ben, par où c'est la Seine? Vous savez où
oui,
c'est la Seine?
Par là.
Ah bon. Et la Saône?
Et la Saône, c'est...
De l'autre côté. Bon, ben, je sais pas, j'ai pas tellement de déclarations à faire, à part que je suis tremblant, vibrant, j'ai peur. C'est vrai, en plus.
Ah, il y a c'est l'émeute, là. Et Romano, il est où? Tu l'as?
Allez, les garçons,
celui-là, on prend en sphère.
Avec Christopher, comme hier, hein, c'était...
Comme hier.
C'était caressant.
Attends, j'ai pas
plaisir.
C'est Ligelin, c'est incontournable, intemporel, plein de choses comme ça, quoi.
Non, ils sont trop déchaînés. Moi, j'ai besoin d'un public
tranquille,
calme. C'est quand même du classique, quoi, tu vois.
Combien de mois déjà, cette tournée-ci? Le temps qu'il fallait pour qu'on mûrisse et qu'on devienne de mieux en mieux.
Et à un moment donné, il va falloir qu'on se sépare parce qu'on sera trop bien.
On sera trop bien?
Ouais. Ouais, c'est parti.
Voilà, vous êtes parti avant.
Allez.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. Jacques Higelin.
Merci. Bonsoir. Bonne soirée.
Vous auriez plaisir à remonter sur scène avec Jacques?
Oui, bien sûr. Forcément. Mais on est remonté ensemble il y a 4 ans. Même pas. 3-4 ans, on a fait un concert ensemble. C'était merveilleux. Encore à chaque fois, c'est merveilleux.
Louis Bertignac.
C'est pas qui fait forcément la musique qui me fait le plus bander sur Terre, mais je suis sûr qu'il va se passer des choses. Parce que quand il monte sur une scène, il n'est pas normal. Il devient complètement fou. Alors avec un mec qui devient complètement fou, il peut arriver n'importe quoi. Et ça, c'est toujours très agréable. C'est le genre à parler d'un coup de foudre. Et juste à ce moment-là, il y a un éclair dans le ciel. Et avec un coup de foudre, pardon. Il se passe des choses étranges. Je ne veux pas dire que c'est un magicien, parce qu'il ne gère pas du tout. Mais il arrive des trucs étranges.
Une production des radios francophones publiques sur France Inter.
C'est un univers qui est assez à part. C'est très poétique. C'est théâtral. Il y a tout ce qu'il y a pour un artiste.
Réalisation Dominique Martineau-Lagarde.
Sinon, Jacques a une particularité, c'est que avant de monter sur scène, on n'a aucune idée de ce qu'on va jouer. Mais vraiment, il n'y a aucune liste, rien du tout.
Éric Serra.
Juste avant de monter sur scène, j'avais quand même, moi, réussi à lui faire admettre que c'était bien qu'il nous dise le premier morceau. Mais c'est moi qui ai amené ça, parce que sinon, à l'époque, même ça. Et ensuite, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Higelin, et que je comprends, quoi. Je comprends dans quel état il se met par moment. Et du coup, en général, à la fin d'un morceau, en fonction de son humeur, je savais ce qu'il allait jouer après. Et souvent même avant même que lui le sache. Quoi. C'est-à-dire qu'il, en fonction de ce qu'il était en train de dire ou de pianoter, souvent je savais où ça allait le mener. Quoi. Enfin, vraiment les trois quarts du temps. Donc je prévenais les musiciens, attention, on va jouer ça. Parce que le problème, c'est que lui, il s'occupe de rien. Quand il est sur scène, il démarre son concert et puis il va jusqu'au bout de son concert. Il part vraiment sur une autre planète, sur sa planète, quoi. Du coup, c'est vraiment... On ne peut pas faire plus spontané et plus vrai, quoi.
Je fais un international, ce sera la 17e fois. Depuis la dernière cigarette, alerté du bébé. Depuis, je suis musicien, je me suis depuis longtemps.
Et de s'emmener aussi loin qu'on puisse, aussi haut qu'on doit, vers le paradis de l'imaginaire. Ici, la grande voix.
Est-ce qu'il aurait pu y avoir Jacques Higelin sans la scène?
C'est une question que je me pose pas.
Non?
Si?
Oui?
Non, je me pose pas. C'est comme tu demandes à un poisson qu'est-ce qu'il ferait sans être dans l'eau. Il te dirait j'étouffe. Non, 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 vraiment, c'est mon élément, quoi. C'est l'élément de ma vie depuis petit, depuis la première scène qu'on a vue l'autre fois à la salle Albert Caillou. Jusqu'à maintenant, jusqu'à après, jusqu'à je sais pas quand, jusqu'à ce que j'ai plus de ressort. Mais mon élément, ça a toujours été des lieux, quels qu'ils soient. Hein. Ça peut être des temps, ça peut être aussi en plein air, sur des places. Ce que j'ai fait beaucoup aussi, ce que je referai encore, et avec grand plaisir. Je vois des... Bonjour.
Bonjour.
Jacques.
Élise, enchantée.
Un ancien...
Oui.
Du siècle d'hiver. Un ancien, pas tant que ça.
Mon jeu de main.
C'est très vivant. Vous jouez... Comment vous appelez ?
C'est Viva l'Opéra.
Viva l'Opéra ?
Oui. C'est des extraits d'opéra italien.
Ce qui est ça l'extraordinaire avec ce cirque, c'est que tu peux tout faire. Ouais. En plus, ils peuvent retirer la plaque, là, et il y a des baleines nautiques. Tu l'as vu ?
Il y a une piscine
aussi. Oui. Ah non, ça va être...
Il est merveilleux, ce lieu.
Oui, mais c'est la première fois que je viens.
Ah, t'es jamais venu ?
Non, non. Donc...
Et alors ?
Bah ouais.
Quelle impression as-tu ?
Bah c'est super joli, hein.
C'est beau,
ouais.
Hein ?
Ouais, 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 vraiment.
Même les proportions, tout est magnifique.
Bah oui, c'est ça, ouais.
Et tu te rends compte, le ciel d'hiver, c'est... je sais même pas si c'est, ça frôle les 200 ans, quoi. 100 ouais. ans, au moins 150 ans.
Ouais.
Celui-là est un lieu tout à fait à part, parce que c'était carrément le mieux, quoi. Et dans mes souvenirs... qui sont très présents, c'est comme si c'est hier, là je m'y retrouve assis et c'est comme si j'y étais encore. J'ai jamais quitté cet endroit. Puis la scène est ronde, c'est-à-dire c'est le cercle initial des acteurs de rue, hein, des chanteurs de rue, les gens se mettent autour. C'est la première vision que j'ai eue quand j'étais petit, du mec qui jouait de l'accordéon devant le marché de Chelles et les gens se mettaient autour en rond.
On fait cercle.
Le cercle, on fait cercle autour. Et on fait cercle aussi autour de la femme qui vient d'accoucher, de l'enfant qui est né. Et le cercle de famille qui se met autour du lit et qui regarde cet événement extraordinaire. Ou bien on fait
oui,
cercle.
Parce que finalement, même à Bercy, c'est pareil. Même à Bercy, la scène était au milieu de la salle et le piano était au milieu de la salle.
Oui.
Et tout le monde était autour.
Oui. Oui. Ce qui est très merveilleux, quoi. Ce qui est très naturel, les premiers cirques aussi romains, les gens étaient en rond aussi autour. J'ai joué, je dis ça parce que j'ai joué dans des petits cirques ou des grands cirques romains et c'est pareil quoi. Et d'être entouré, et le cirque d'hiver, c'est parmi tous les endroits que j'ai fréquenté, celui qui m'a le plus étouché, ému. Bouleversé.
Inspiré aussi.
Et inspiré, oui. Bah oui, regarde le dôme au-dessus, il est très haut. C'est comme un ciel, quoi.
C'est un homme un peu normal, quoi.
Quel Iselin.
En revanche, je peux voir que ça peut être un formidable interprète, un type incroyable sur scène. Hein. Avec Isia et Arthur, on le regarde parfois et on se dit waouh, parce qu'il est très très fort hein, dans son domaine. Et c'est un formidable Jacques Iselin.
Je voudrais commencer par un ode à la paresse, car il n'y a rien de plus important dans ce siècle de gens stressés par l'arrivée de l'an 2000, de prendre les choses sans se nerver, sans mettre la pression, au contraire en lâchant la pédale et en laissant rentrer dans son cœur les volutes tendres et spirituelles de la paresse. Ce morceau fut composé un jour d'été, habillé d'une robe extrêmement décolletée jusqu'aux épaules, avec des talons hauts, un grand chapeau, avec des fleurs, un parterre de fleurs, et devant un piano droit où il y avait une bouteille de poire William, à 40 degrés. J'attendais le passage du Concorde qui se frayait un sillage voluptueux dans le chant des oiseaux migrateurs.
Thank you. place Jacques en scène, je veux dire, quand c'est nu et d'une manière totalement, on peut dire, c'est une cérémonie, quoi.
Dominique Mahut.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui propose aux gens de côtoyer le chaos. C'est-à-dire que lui, s'il laisse tomber totalement, il est dans une espèce de transe. Il se laisse traverser par tout ce qu'il constitue, tout ce qu'il a traversé dans la journée. C'est toujours neuf. C'est où on ressent ça le plus, cette liberté la plus totale, c'est quand on était tous les deux en scène. Parce que bien sûr, quand là on vient de faire 120 dates avec un groupe, on est 5 en scène et on est obligé de rester dans des structures, des conventions.
Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Ça veut dire quand même avoir un peu des références, savoir avec quel morceau on commence, qu'est-ce qu'il y a après, quand est-ce qu'on par quelle note on attaque. Ça peut, je veux dire,
il y a des conventions. Alors ça, c'est vrai que ça, à un moment donné, quand on est 5 comme ça, au bout de quelques dizaines de concerts, forcément, on rentre dans des systèmes, dans des routines. Et ça, c'est quelque chose qui ressent comme une contrainte terrible. Jacques, il résiste à ça beaucoup. Il ne peut pas retrouver la totale liberté qu'il a quand il est seul ou avec deux musiciens. Ça, c'est évident. Quand on est deux musiciens, on peut le suivre comme si on partait en promenade. Quand on suit absolument n'importe où.
Je sais pas si on se met en danger, mais le spectacle ne commence qu'avec l'arrivée du public, des gens. Et tout est fait pour ne pas être préparé, se préparer à la rencontre, mais le spectacle n'est pas monté, n'est pas fini et n'est pas fermé.
C'est toujours une expérience, un concert de Jacques. Les gens qui ont entendu ses albums sans le voir en scène, quand ils découvrent à chaque fois... Les gens sont un peu éblouis, quoi, parce que c'est une expérience, quoi. C'est une espèce de c'est un autre temps. Il propose un temps, il propose l'instant, voilà.
Le Higelin du disque, c'est pas le même que le Higelin de la scène.
Mais parce que c'est un autre travail. Et c'est difficile, quoi. Quand t'es quand tu rentres en scène, tu peux pas t'arrêter pour dire ou alors si tu t'es trompé dans un couplet, tu peux recommencer comme les gens du cirque. D'ailleurs, ça m'a toujours aidé. J'ai un trou et d'un coup, je dis, écoutez, je recommence la chanson. Ok, tu vois, je vais pas faire semblant de. Mais d'ailleurs, la deuxième fois, je me rappelle de tout. Puis les gens se marrent, ça les fait marrer de voir un mec qui gratte son numéro. Hein. Ils applaudissent après, ils disent, ouais, il est courageux, il recommence. Mais. J'ai jamais triché sur les disques, jamais. Mais j'ai pu me tromper. Et j'ai pu aussi commettre des erreurs que, par exemple, en scène, tu es immédiatement sanctionné. Quoi que tu fasses, si tu te trompes, le public, tu peux faire un mauvais concert et le public décroche. Et s'il décroche, tu rames. Et tu peux pas leur dire, attendez un instant, je vais changer les arrangements, je vais mettre le musicien qui est là, je vais réparer le piano. Même si ton piano tombe en panne, il faut que tu continues à chanter, puis deux mecs foncent pour te réparer. C'est un bateau ivre, la scène. C'est un bateau en route, c'est un avion qui décolle, tu peux pas atterrir. Ou alors, tu peux faire un beau scratch et te relever après. Mais jamais tricher non plus. Non. Mais des fois, ça m'a échappé, les disques. Des fois, je ne savais pas. Je suis un homme de scène. Barbara avait dit la même chose. Qu'elle était... Des fois, en studio, je suis désemparé, quoi. Et tu sais jamais si c'est bien ou pas bien. Moi, je le sais avec les gens. Je sais que je fais fausse route. Je sais que tout d'un coup, ma voix est pas la bonne voix. Alors, je vais chercher la voix, mais je corrige au fur et à mesure avec tout le monde. Mais là, qu'est-ce que tu peux... Là, c'est du travail d'orfèvre, faire un disque, c'est... Il y a un détail qu'il faut... C'est plein de choix, tout le temps. En scène aussi, sauf que tu les résous par l'élan.
Tout est parti d'une situation que quand il est sorti de la boîte et qu'il a plus vu, ça meuf. À ce moment-là, il est parti au hasard et il est tombé sur une patinoire qui était juste à 200 mètres de la boîte. On se demande ce que ça foutait là, mais c'est pas grave. Il y avait la pleine lune, et il y avait elle qui dansait d'une façon divine, en glissant de part et d'autre, comme un elfe, comme un être hyper léger, gracieux, futile. Et lui, voyant une paire de patins qui traînaient, les enfile alors qu'il ne savait pas en faire. Et s'élance sur la patinoire, et là, ça a été ubuesque. Tu glisses sur la glace lisse, je m'efface. Devant toi, je m'éclipse. Trace en surface des ellipses. Comme une hélice d'hélico, je brasse l'air. Tandis que tu me dépasses.
Mais un disque, c'est comme un film.
Dans un reflet du palais des glaces.
Tu procèdes par image, par travail intérieur, par... C'est très délicat, quoi. Et si tu peux te lancer aussi, ça dépend, mais c'est un autre... c'est un film, quoi. C'est un film musical, mais ça demande... Après, il y a le mixage, très important. Il y a le mastering, très important. Et avant, il y a le choix, les instruments. On peut corriger, effacer, recommencer. C'est un travail de labo, de laboratoire. Ça peut être très bien, très réussi. Comme ça peut être raté. Mais pour moi, j'ai toujours pensé qu'une fois que les chansons arrivaient en scène, alors là, elles allaient prendre leur dimension avec les gens qui étaient venus. Parce qu'ils font partie de l'histoire.
Je patine sur le lac des cygnes. Avant-coureur de ta froideur maligne.
Mais de toute façon,
tu traces
moi j'ai toujours. C'est un choix qui s'est imposé, et c'est même pas un choix, ça s'est imposé comme ça. La musique, je l'aborde plutôt de manière éphémère, c'est-à-dire en scène, quoi. J'ai jamais couru après le studio, ça m'a jamais vraiment intéressé, quoi. Jacques non plus d'ailleurs, il se sent un peu coincé en studio et il est toujours en dessous de sa démesure, quoi. C'est ça la problématique avec Jacques en studio, quand on fait des albums, c'est d'essayer de se mettre dans une condition où on va retrouver cette démesure qui est là en scène, quoi. Qu'on retrouve finalement jamais, quoi, sur les albums.
Les albums ne sont que des, des appels vers la scène.
Oui, on peut dire ça, oui.
Rencontré le 9 juin 81, je suis pas prêt d'oublier ça.
Éric Serra.
Dans un studio de répétition où moi j'étais là par hasard et lui répétait par contre. Moi j'étais là parce que je venais chercher du matériel pour un concert qui n'est jamais venu. Et puis dans l'après-midi, un des cuivres d'Higelin, un des frères Guillard, est venu me chercher au bar qui était à côté du studio, me disant tiens, viens, il faut que je te présente Higelin. Je me suis approché, j'étais jeune, j'avais 20 ans, et donc j'étais très impressionné. En plus, Jacques, à cette époque-là, c'était le gars qui faisait le plus de monde en concert en France, donc c'était vraiment une rock star, quoi. Et moi j'avais 20 ans, donc j'étais très impressionné. Et on nous présente comme ça, bonjour, alors il paraît que t'es bassiste. Oui, je suis bassiste. Est-ce que tu peux jouer avec nous là pour la répétition, parce que le bassiste peut pas venir. Et alors, là j'ai commencé à jouer avec lui. Et puis au bout de 2 heures de répétition, il devait partir. Je me souviens, il allait chez le dentiste. Et avant de partir, il m'a dit, bon, est-ce que t'es libre demain soir ? Voilà. Et c'était le fameux concert du 10 juin 81 qui s'est avéré être le plus gros concert qu'on ait jamais fait. Il y avait 170 000 personnes, place de la République. C'était pour fêter, c'était un mois après l'élection de Mitterrand. On avait même, pour la cerise sur le gâteau pour moi, il y avait téléphone en première partie. Alors là, moi, j'étais carrément dans un autre monde. J'aurais joué avec Led Zeppelin ou les Rolling Stones, ça m'aurait pas fait plus d'effet.
J'avais ma vie, mais on restait copains, je voyais de temps en temps. Ouais. Il m'invitait à monter sur scène quand il jouait à Paris.
Louis Bertignac.
Oui, il y a le fameux concert Place de la République où, en fait, vous avez mélangé Jacques Higelin et Téléphone. Une grande pièce d'anthologie du rock français.
On a vécu d'autres d'anthologie, comme on a fait un concert à Phnom Penh, au Cambodge. Pareil, j'étais avec mon groupe et il faisait un tour du monde, il s'est retrouvé là à ce moment-là, puis on a fait un concert à deux ensemble.
Et alors comment ça se passe, ça ? Mettre un groupe aussi constitué que Téléphone, avec un électron libre que peut-être Jacques Higelin ?
Mais ça se fait assez facilement parce qu'on se connaissait bien quand même. Moi je le connaissais, nous deux on se connaissait vraiment forcément très très bien. Les autres aussi, Jean-Louis, Corinne, forcément, lui, il tournait tout le temps, on était tout le temps ensemble, il avait rencontré Higelin plusieurs fois, Higelin était venu chez nous, on était allé chez lui, etc. Donc, bon, ben, mais c'est pareil, c'est l'esprit rock, donc, vas-y, tu commences et je te suis, c'est un peu ça. Alors, si on prenait une chanson de Téléphone, il venait faire un tambourin, et puis si une des chansons d'Higelin, genre Paris-New York, moi je dis aux autres, bah vous me suivez, hein, y a pas de problème. Et on laisse chanter. Alors là.
Là, lui, comment sur un spécimen assez rare de ceux dont on dit qu'ils ne sont pas d'ici. Personne ne pouvait le supporter. Donc finalement, on l'a refilé. Et au fur et à mesure, il s'est incrusté. Et les musiciens qui sont là ce soir sont les seuls avec moi à le supporter. Donc ce sont ceux qui ne seront jamais virés parce que, il sera toujours là, quoi. Et c'est terrible pour nous, mais c'est merveilleux pour vous ce soir. L'incroyable, le fabuleux, le que dis-je, le super hyper de l'hyper solennité du siècle à venir de la lumière. J'ai nommé l'empereur du Koskachmoistixus, l'empereur Dominique Mayu.
J'ai un peu le sentiment que votre relation avec Jacques, c'est une grande amitié, bien sûr. C'est une complicité, mais c'est aussi un peu un contrepoint.
Bah, ça tient au fait que on est. Lui, il est dans une espèce de logorée comme ça, et puis dans un mouvement perpétuel en scène. Il marche, il bouge beaucoup. Et moi, je suis plutôt dans un mutisme forcément, puisque je suis pas là pour prendre la parole. Je suis là pour éventuellement, je suis un espèce de passage entre lui et puis le. Alors d'une certaine manière, des fois je rassure les gens parce qu'ils voient quelqu'un qui reste assez tranquille à côté de lui. Des fois, Jacques s'amuse à inverser les choses, faire que qu'est-ce que c'est que cette personne qui ne dit rien, à quoi il pense, quoi. Voilà, donc on, avec le temps, on joue avec nos personnalités qui sont d'une certaine manière apparemment très différentes.
Quand je chante avec lui, c'est toujours un moment qu'on partage vraiment. L'intimité, tout ça, puis c'est toujours hyper agréable. Moi, je chante avec papa depuis que j'ai 7 ans, quoi. Je montais faire les chœurs sur scène. Et puis même, je crois que c'est la première fois, c'était... je sais plus où c'était, j'étais montée sur scène à 3 ans, il avait commencé à chanter ma chanson, il m'avait posé sur le piano et tout. Donc la scène avec mon père, enfin, mon père et moi sur scène, c'est quelque chose qui date de très longtemps. C'est quelque chose qui a toujours existé. Mais...
Est-ce que la scène est aussi un lieu? J'ai envie de dire de justification.
De quoi? Justifier quoi?
De votre existence, du personnage de Jacques Higelin, de la musique de Jacques Higelin, de ce que vous êtes.
D'abord, je me vois pas comme un personnage. Et des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, vous êtes un personnage singulier dans la chanson française. » Je suis bien vivant. Et je réfléchissais à ça en me réveillant parce que j'étais pas en forme, mais je me disais que l'art et la vie, pour moi, c'est la même chose. Et que je pense même que la vie est le moteur de l'art, et pas le contraire, quoi. Mais parfois, il se trouve que parfois, l'art nous permet de réinventer la vie comme on voudrait qu'elle soit, ou comme on souhaiterait que ça se passe. Donc, c'est une ère, une plateforme, c'est aussi comment on dit ça? Une tribune publique où tu t'exprimes, où le poète parle aux gens et leur dit des choses qu'ils pensent. Je dis poète sans prétention, sachant ce que ça représente. C'est-à-dire quelqu'un qui prend la parole, un homme libre ou une femme libre. Comme disait Barbara, je suis une femme qui chante. Je ne suis pas une chanteuse, je suis une femme qui chante. Et ça veut tout dire. Et moi, je suis aussi un homme qui parle, qui chante et qui fait de la musique. Mais cette ère de jeu nous permet pendant un temps, on arrive à emmener tout le monde à d'abord développer des visions et qu'à un moment donné, on oublie l'extérieur et par le voyage de la musique, des rêves, des visions, des pensées, tu pouvais faire décoller tout ça et emmener les gens ailleurs. Je ne me prends pas pour un personnage
parce que tout au long d'un concert, je peux être plein de personnages. Je peux être là, par contre, pour montrer une histoire, pour raconter une histoire, parce que j'ai été comédien, et que tout d'un coup, je peux jouer un vieillard. Tout d'un coup, je peux être une jeune fille, parce que ça correspond à ce qui est en train de se passer. Je peux être un enfant, parce que tout d'un coup, t'es naïf, ou pas naïf, mais tu dis les choses comme ça. Elles passent mieux comme ça. Mais en général, j'ai fait assez de voyages avec moi-même pour savoir que je pouvais faire appel à la femme qui est en moi, que je pouvais faire appel à l'enfant qui est en moi, à l'adolescent qui est en moi. Et j'ai pas, et toute ma vie d'artiste, j'ai fait appel à ça. À un moment donné où je sais plus où je vais, je parle à l'enfant, je dis viens, j'ai besoin de toi parce que là, je commence à me regarder jouer et ça va pas durer même une minute, toi, c'est atroce. Et là, il y a une autre voix qui vient, qui prend la relève et qui dit, Vasaka, oublie-toi, ou bien sois ébloui, sois... C'est l'enfant qui prend la relève, c'est l'ado, c'est le jeune homme qui prend la relève, des moments où je suis fatigué, où je me sens tout d'un coup... tu sais, quand on commence à prendre une mauvaise voix, eh ben, il y a tous ceux-là qui prennent la relève. Plus, quand je joue un vieillard, ce sera moi vieux, tu vois, ou c'est ma mère, en fait, quand je l'ai vue très âgée. C'est pas pour me moquer d'elle, c'est qu'à un moment donné, elle avait tellement de mal à bouger, et moi, je l'ai tellement aimé observer, même jusqu'à la fin, que, avec amour, hein, et que quand je refais en scène, si je me fais, moi, vieillard, j'en ai observé aussi des gens âgés, et je marche à tout petit pas, et je sais l'air égaré qu'on peut avoir, parce que tout est difficile. Tout est aussi difficile qu'un bébé qui fait les premiers pas. Donc... Dans mon cas, c'est différent. Si j'ai abandonné aussi le théâtre, c'est que je ne voulais pas être un personnage ou un autre. Mais le fait de l'avoir traversé, ça m'a appris qu'est-ce que c'est de se mettre dans la peau d'un âge, d'une situation autre que la tienne. Bien sûr, je peux le faire, mais comme le langage, ma pensée a pris le relais, je suis l'auteur de mes propres spectacles, donc le poète qui écrit. Et quand j'écris, c'est en me disant, je vais interpréter ça, de quelle façon, je ne sais pas encore. Je vais être accompagné de musiciens ou d'autres, j'imagine une musique. Alors là, c'est le compositeur aussi qui prend la relève et qui dit, est-ce que j'ai envie d'une grande musique spatiale ou une petite musique enfantine ou... En fait, tu prépares la pièce, le matériel, ce dont tu vas te servir, les outils pour faire passer... En tout cas, au départ, la pensée que tu as. La pensée que tu as dans la solitude totale, parce que tu peux l'avoir que comme ça, et en contact avec ce que tu vas dire aux gens. Ou alors, ce qui dans ce qui t'est inspiré par je ne sais quoi. Alors là, l'inspiration, c'est divin. C'est main sur la bouche et tu dis chut, mystère. On parlait de ça hier, mais il y a des choses inexpliquées et il y a des choses où tu n'es que le passeur et le traducteur d'une pensée qui est largement, mais là, largement supérieure à toi. Même plus que supérieure. Tu es la créature de cette force-là.
Merci beaucoup. Ça compense. Parce que des fois, je suis dans des états proches de la démence. Tu rigoles, mais c'est vrai. Des fois, je suis vraiment... les gens, ils se demandent si c'est moi, quoi. Moi aussi. Ils me prennent pour un autre, mais ça, je m'en fous, alors, parce que c'est des apparences. Mais le fond, le fion de l'âme, quoi, le bas du bas, quoi, le truc qui tremble dans le cul, qui te sort plus du cerveau, le truc que tu rumines comme une espèce de vache hollandaise dans un café où t'es là, coudé dès le matin, parce que t'as pas dormi, connard, parce qu'elle t'a fait que tu peux plus dormir. Et quand tu te réveilles, tu te demandes où elle est. Alors tu vas au café du coin, et là, tu pourrais t'appeler Higelin ou Tartampion, je sais pas qui. Tout le monde s'en fout parce que le mec, il a une gueule qu'il faut pas le déranger. Et il n'y a personne pour tirer de cet état-là parce qu'il n'y a que toi qui peux t'en tirer. Voilà, c'est ce que j'ai compris.
Pour moi, de plus en plus, accompagner quelqu'un, c'est un peu vivre à côté dans le même temps, quoi. D'ailleurs, sur scène, je me fais un peu comme je m'entoure de mes instruments comme si c'était un peu une espèce de cabane, de maison. Et je suis dans ma maison comme ça, Et de là, je vois cette chose, cette espèce de chose étrange, ouais, qui est sur scène et qui se débat dans un... Il veut convaincre. Je ne sais pas de quoi, mais il veut convaincre, de toute façon. Et est-ce qu'il laisse de la place? Non. Il prend toute la place, mais en même temps, on peut très bien être à côté dans le même temps, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça.
À un moment donné, quand j'étais dans un... Colin était très malade, était à l'hôpital, vraiment un truc grave. Et je jouais dans un café-concert, le Sélénique, qui était très profond. Il y avait deux étages en dessous. Et que j'avais chanté, et j'étais tellement désespéré, j'avais pas de rond, j'avais rien, on faisait la quête pour vivre. J'étais remonté au premier étage et je buvais une bière que mon patron m'avait offert. Et il y a un mec qui m'a regardé, je me suis mis à pleurer discrètement, mais dans mon coin, parce que je pensais à ma femme qui souffrait, et puis... qui était mal, quoi, puis qu'on n'avait pas de rond, et puis qu'on était dans la merde. Et le mec, il m'a juste posé un message devant moi, et c'était la pensée d'un indien, d'un chaman indien, je sais pas, qui disait, tu poses un morceau de sucre dans la jungle, et toutes les fourmis arrivent. Il voulait me dire par là que, peu importe où tu sois, si c'est nécessaire, si ça nourrit, si c'est riche, et si c'est... Les fourmis viendront, et à ce moment-là, tu les nourriras. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un lieu... Je sais qu'il y a deux façons de le prendre, parce que j'ai vu deux façons principales de le prendre. Soit, ce qu'on appelle les stars, les idoles, c'est pas d'autre mot, qui rentrent et qui considèrent que le public ne fait que rehausser leur piédestal. Donc, leur ego surdimensionné est de plus en plus flatté par cette adoration, de toute façon, qu'ont les gens qui les regardent, qui disent « j'adore ces chansons, j'adore ce mec ». Il y a le mot « j'adore », d'ailleurs, très bizarre quand même, tu vois. Et fan, fanatique, idole, bon, suivez mon regard. Mais l'autre façon, c'est comme le cirque. Tu rentres humblement parce que tu... Pas humblement, on n'est jamais humble. D'ailleurs, Arletty qui a dit, si on était humble, on ne rentrerait même pas sur scène. Il dit, c'est une connerie, ça. C'est pas de l'humilité, c'est de la fierté, puis de la combativité aussi. Mais si tu rentres, c'est pour partager le don que tu as reçu et le faire rayonner. Et si tu te regardes à ce moment-là, tu changes la donnée. Et à ce moment-là, ça devient de l'idolâtrie. Si tu te regardes en train de faire ça et que tu t'adules toi-même et que ton ego est surdimensionné et que ça flatte au fond de toi dire « je suis le king, le roi le... ». Et j'aime pas ça. Parce que je trouve ça humiliant pour les gens.
Honteux ! Honteux ! Ça va être difficile ce soir. Ça va être très difficile parce que ce soir, il y a la force des deux côtés. All time, all time. Bouliaque, ça coince, ça me fout de ma main. Je suis venu rise. All time, all time. Bouliaque, ça coince, ça me fout de ma main. Je suis venu rise. Solo.
C'est très différent d'être devant 150 000 ou devant 3 000 ou devant 500. Ça crée une relation tout à fait différente. Et évidemment, dans une salle de 500 places, on est beaucoup plus proche des gens, c'est clair. Il y a plus d'intimité, il y a plus de complicité. Mais en même temps, dans une salle de 15 000, il y a autre chose. Il y a peut-être moins d'intimité, mais il y a des choses... passionnante aussi, quoi. Il y a une espèce de phénomène de foule comme ça qui est curieux et qui est intéressant. Et je sais pas, franchement, je ne sais pas s'il était moins à l'aise avec ça. J'ai jamais eu cette impression. Il m'est même arrivé, moi, justement, à Bercy, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'était un moment très fort, pendant Victoria, la chanson Victoria, d'avoir pleuré en jouant un moment, tellement c'était beau, tellement il y avait d'émotion. Et... Or ça, les moments d'émotion comme ça, c'est typiquement un moment de relation très forte entre lui et le public, hein, pas de mystère.
La magie de Bercy, c'était devant plein de gens, comme dans un stade, si tu veux, d'un côté, de l'autre. Un stade couvert, mais un stade et un... Et la rencontre à Bercy, c'était surtout avec ces poètes africains. C'est-à-dire, pour moi, une alliance internationale, mondiale, de deux continents. Et à un moment donné, Youssou N'Dour descendait sur une énorme plateforme qui descendait d'en haut avec des roulements, qui descendait d'un grand, il y avait un grand escalier en travers de la plateforme, genre un steak temple, des pyramides, tu vois, des petites marches qui montent très haut. Et tout d'un coup, Youssou N'Dour qui descend avec des feux d'artifice, des feux, des lumières, des boums, des trucs qui étaient possibles que là, et des tambours et tout, et moi au milieu, sur une plateforme qui avançait vers la sienne, qui descendait, les deux plateformes. Et j'avais l'impression qu'on était deux vaisseaux et que le continent africain descendait du ciel et venait vers moi et que moi j'arrivais en bateau quoi et j'arrivais vers lui et quand les deux plateformes se rencontraient on allait l'un vers l'autre et là on s'embrassait et les gens pareil une émotion très forte pareil l'entrée avec Mori Kanté où on n'était que deux à rentrer et il m'a dit Jacques j'ai tellement peur et il rentrait par en bas, sur la piste, éclairé par derrière, dans son ombre immense projetée dans Bercy. Et il arrivait juste avec une kora. Et moi, il était habillé tout en blanc. L'Africain habillé en blanc, avec un calot blanc, une djellaba blanche, une allure formidable. Et je sens qu'il était à la fois ébloui par ce rôle de héros, le héros qui lance le concert, quoi. Que je le vois de loin et je vois sa peur, son hésitation et je me mets à courir vers lui. Et c'était loin, Bercy. Je lui prends la main, moi tout en noir, un blanc, et lui un noir tout en blanc. Et j'avais pas vu ce que ça pouvait faire. Les gens, pareil, ont commencé à applaudir doucement, puis de plus en plus fort, et une vraie ovation. Parce que l'image que ça donnait dans cet énorme espace, ces deux continents, deux civilisations, qui se prennent la main, qui marchent ensemble en paix et qui sont heureux d'être ensemble et fiers d'être ensemble.
Bonsoir Jacques. Et bonsoir Bercy.
Moi j'ai fait une tournée en Afrique, la première tournée en Afrique de Jacques en 84. C'est là qu'on a rencontré Youssou N'Dour. Alors Youssou était déjà une superstar là-bas, hein, mais par contre en Occident on le connaissait pas et c'est Jacques qui l'a fait venir. Mori Kanté aussi. Et puis nous on a vécu des choses incroyables. La musique elle vit là-bas quoi, en Afrique. Elle est partout, elle est dans l'air. Et du coup quand on est musicien, on joue pas de la même façon en Afrique, on joue 10 fois mieux. C'est assez impressionnant.
À cette époque-là, et même encore un peu maintenant, c'est quand même un sacré révélateur de talent, parce que il vous a mis beaucoup le pied à l'étrier. Ouais. Je pense à quelqu'un d'autre comme Éric Serra, ouais. même si Éric Serra avait déjà commencé à faire des choses avec Luc Besson, etc. Personne ne sait que ça a été le bassiste de Jacques Higelin pendant un bon bout de temps. Et il y a peu de gens aussi qui savent que Louis Bertignac a été le guitariste et a signé des chansons de la musique de quelques chansons de Jacques Higelin bien avant le téléphone.
Il y a des mecs comme ça qui réunissent un peu des...
Louis Bertignac.
Qui savent choisir les gens qui vont les entourer. Et je crois que sa femme, à l'époque, c'était Coelan, elle avait beaucoup à dire dans l'histoire. Elle ne connaissait rien à la musique, mais elle voyait autre chose chez les gens.
Une énergie,
une envie, un charisme, des trucs comme ça. Et je pense qu'elle y était pour pas mal dans les choix intéressants de Jacques.
Et puis Jacques, bah, finalement, ça a duré 7 ans. Et puis quelques semaines après ça, il m'a nommé chef d'orchestre. Puis j'étais le plus jeune, donc j'avais vraiment plein de convictions musicales.
Tout d'un coup, 1980, là, un nouveau personnage, j'ai envie de dire, apparaît dans l'équipe de Jacques, Dominique Mahut.
En fait, on s'est croisés dans une cafétéria d'un cours de danse. Moi, je ne connaissais pas Jacques du tout. Et en fait, il me connaissait, je pense, parce que je jouais déjà depuis 5 ans avec Lavilliers. Donc, il m'a abordé en me disant « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Tu joues ?» Je lui ai dit « Bah non. » Il m'a dit « Parce que je commence Mogador demain. Si tu veux, tu viens jouer avec nous. » Et je l'ai joué avec eux le lendemain. Je ne connaissais absolument pas Jacques. Je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire de Mogador qui était exceptionnelle. Quoi. Vraiment, musicalement, c'était incroyable. Quoi. Il y avait vraiment des gens étonnants.
Jacques Higelin sur France Inter. Réalisation Dominique Martineau-Lagarde. Assistant de production Julien Vanasse. Une production de La Première, RTBF, pour les radios francophones publiques.
À la dernière du premier spectacle au Cirque d'Hiver, le dernier jour, toute la famille au grand complet était là. Monsieur Bouglione avec sa canne et son Stetson et toute la famille, quoi. Et puis qui avait dit à ses fils, Monsieur Higelin, c'est un vrai professionnel. Ça, pour moi, venant de lui, c'était la grande, grande médaille. Alors tu vois, pas avoir des victoires de la musique, ça n'en a rien à foutre. Je veux dire, c'est tellement important des choses comme ça. Et d'autre part, Polo, mon frère, m'a dit, il y a une surprise ce soir. Paul m'a dit, tu peux rentrer dans le cirque, mais tu commences pas tout de suite. Tu salues les gens et puis tu te retournes et la surprise sera là. Et là, par cette autre entrée-là qui est l'entrée des artistes, en face de l'entrée du public, où je commençais tous les soirs d'ailleurs, arrive ma mère avec le disque d'or et qui avait beaucoup de mal à marcher, tu sais, ses cheveux argentés, son visage incroyable. Elle marchait à tout petit pas parce qu'elle avait du mal. Encadrée par le dompteur en grand costume d'apparat et Monsieur Loyal en grand costume d'apparat. Monsieur Loyal, tu vois, c'est ça le cirque aussi. Et ils accompagnent ma mère jusqu'au centre. Ah ! C'est le plus grand moment de ma vie d'artiste, le plus haut moment de ma vie d'artiste. Je ne savais plus quoi dire. J'ai couru vers ma mère de là jusqu'à là, c'est pas loin, j'ai avancé, je suis tombé à genoux devant elle. Tombé à genoux. C'était tellement beau. Et ma mère m'a tendu le disque d'or, dont on n'avait rien à foutre tous les deux, mais bon, tu vois, bon, c'est ta mère qui te donne ça. Et je l'ai pris, et je la regardais, et les deux hommes, Monsieur Loyal et le grand dompteur en grand costume, et toute la famille Bouglione derrière, et toute la salle, tout le public en larmes, d'émotion, de joie, tu vois. C'est un truc qui arrive une fois dans ta vie, quoi. J'ai une tête de con parce que c'est trop, quoi. C'est trop. Tout le public debout est en train d'applaudir doucement, profondément, quoi. C'était toute ma vie d'artiste en...
Ce pourquoi vous étiez né, ce pourquoi ouais. Vous étiez battu.
Voilà. Et de qui je venais et qui étaient mes alliés. La famille du cirque, quoi, tu vois.
Après, tout pouvait arriver.
Les clowns, tu vois. Et Monsieur Bouglione qui était là avec un énorme bouquet de fleurs sur mon piano. Un énorme bouquet de fleurs à Jacques Higelin, la famille Bouglione, avec amour, avec respect. Putain.
Après, tout peut
Qu'est-ce
arriver.
Que tu veux demander de plus comme victoire
de la musique, tu vois. C'est victoire de l'art, c'est victoire du cirque, c'est victoire de la rue, c'est victoire du rire, de l'émotion. Ça, ici, c'est... Tu as, en résumé, tout ce que j'ai pu faire en scène, pour moi, c'était la consécration.
Voici une chanson qui arrive de la gorge d'un oiseau de Louisiane. Je lance un appel aux archanges de l'amour. Quelle chance à vous.